Cogeco Nouvelles.
14 mai, mardi, Guy Simard, voici les nouvelles. Une autre panne majeure est survenue aujourd'hui à la Société de l'assurance automobile du Québec. Cette fois, c'est un bris de système informatique qui a provoqué l'interruption de tous les services d'un bout à l'autre de la province. Philippe Bonneville.
Le bris a touché l'un des principaux serveurs informatiques de la SAAQ. Conséquence, durant 3 heures, aucun service de la Société d'État n'était disponible, ni via le portail Internet, ni en personne dans les points de service.
J'ai été surprise, comme tout le monde, quand je suis arrivée.
Une situation frustrante pour des milliers de personnes dans la province, car cette panne majeure aurait pu avoir un impact important dans certains cas.
Je vais devoir rester à la maison et de ne pas aller travailler parce que mon permis expire ce soir à minuit.
La SAAQ explique que ces nouveaux problèmes informatiques n'ont absolument rien à voir avec les ratés de sa transformation numérique. La Société de l'assurance automobile a cependant demandé un plan d'action à son fournisseur IBM pour limiter les répercussions en cas de bris semblable dans le futur. Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Ailleurs dans l'actualité maintenant, un nouveau sondage Léger Québécois démontre une légère baisse des intentions de vote pour le PQ et un plongeon marqué pour Québec solidaire. Le sondage réalisé du 10 au 13 mai auprès de 1013 répondants donne 32% des intentions de vote au PQ, c'est-à-dire 2% de moins que lors du sondage réalisé en avril. C'est la CAQ qui s'est accaparée de ces 2 points avec désormais 24% des intentions de vote. Alors que le Parti libéral est à 15, c'est une augmentation de 1%. Le fait marquant de ce sondage est la dégringolade marquée de Québec solidaire qui en un mois à peine a perdu 4% de ses appuis, passant de 18 à 14% des intentions de vote. En fait, depuis mars, QS a vu le tiers de ses supporters lui tourner le dos. Le Parti conservateur, lui, est stable à 10%. Le nouveau campement pro-palestinien érigé sur le campus de l'Université du Québec à Montréal dérange la direction de l'institution. À notre antenne, le recteur de l'UQAM, Stéphane Pallage, a expliqué que les demandes des manifestants sont absolument impossibles à satisfaire puisque la direction de l'université n'a aucun pouvoir en ces domaines.
Ils réclament un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout du ressort de l'UQAM. Par exemple, la fermeture du bureau du Québec à Tel Aviv. Vous comprenez que l'UQAM n'a pas grand-chose à dire sur ce point-là. Ils réclament également le retrait de l'injonction à McGill, ce qui, évidemment, ne relève pas de l'UQAM non plus.
Le recours aux tribunaux pour obtenir le démantèlement du campement à l'UQAM n'est pas exclu. Quelques milliers de personnes ont participé ce midi à un grand rassemblement pour souligner l'anniversaire de la création de l'État d'Israël. Une centaine de manifestants pro-palestiniens ont aussi tenu à être présents à cet événement dont nous parle Annie Guilmette.
L'ambiance était à la fête malgré la situation à l'étranger. Des centaines de drapeaux blancs et bleus ont été distribués, ce qui a créé une véritable marée d'étoiles de David. Et chaque participant avait sa propre opinion sur les divisions au sein même des Israéliens.
On a encore des otages qui ne sont pas ici. Alors, on a beaucoup de peine.
But nobody likes war.
Et la guerre, c'est terrible et ça donne des grosses émotions.
On s'en fout de ce qui se passe autour. On est juste là pour célébrer Israël.
Après plus de 200 jours de guerre, plusieurs pro-palestiniens se sont aussi présentés au centre-ville. Les policiers, très nombreux, les ont confinés dans un autre parc où ils pouvaient scander leur slogan. Aucun incident malheureux ne s'est produit selon la police. Annie Guilmette, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Météo. 10 degrés, 60% de risque d'averse pour la nuit qui s'annonce à Québec. Demain, belle journée, 21. Ce sera une alternance de soleil et de nuages. À Trois-Rivières, on prévoit 10 cette nuit, 40% de risque d'averse. Soleil, nuages demain également, maximum 23. Sherbrooke, 11 et 21. De la pluie pour les prochaines heures et pour demain. Gatineau, même chose, 11 et 21. Et à Montréal, on prévoit 40% de risque d'averse cette nuit, 13. Même chose demain, 21.
Cogeco Nouvelle.
Ici Madame Farfar
et Jean-Claude Gélina.
Ah ben!
Ne manquez pas.
Ah ben!
Sur CFIX FM 93. Rimouski.
Ah ben!
Les petites vites en semaine.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Deuxième conquête de la Coupe des présidents pour l'organisation des Voltigeurs de Drummondville. La dernière fois, c'était survenu en 2009, le trophée ou l'équivalent du joueur le plus utile, Conn Smythe, de la LHJMQ. Eh bien, c'est le trophée Guy Lafleur. Et le récipiendaire est Vsevolod Komarov, qui a remporté la Coupe d'ailleurs l'an passé avec les Remparts de Québec, en plus de la Coupe Memorial. Voilà donc les Voltigeurs qui s'en vont à la Coupe Memorial. Les Bruins de Boston qui provoquent la tenue d'un match numéro 6. Montréal éliminé en hockey féminin. En prolongation, encore une fois, elles menaient 2-0. Elles se sont fait rattraper. Je regardais la composition de l'alignement des Stars de Dallas, puis c'est pas mal impressionnant. 8 marqueurs de 20 buts. C'est une force de frappe qui est très, très bien répartie. La masse salariale est très bien répartie également. Donc, leur leader, c'est un mélange de jeunes, dont Wyatt Johnston, qui est un choix de première ronde, mais quand même pas dans les premiers choix, là. Dans le cas de Johnston, juste que je retrouve mes notes, je crois que c'est un début de, tu sais, du troisième, 20 et plus, là. Juste pour me... Ah, je lis, là. Je regardais pas du bon bord de la table. Mais dans le cas de Wyatt Johnston, 23e au total en 2021. Rupe Hintz, 49e au total en 2015. Jason Robertson, 39e au total en 2017. Miro Heiskanen, ça c'est un troisième au total, parce que oui, il a quand même eu à traverser des années difficiles pour les Stars de Dallas. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est un bon mélange d'équipes qui a bien repêché, qui ont gardé les bons vétérans et qui continuent de bien repêcher, à preuve la promotion de Logan Stankoven qui grimpe de l'équipe école cette année et qui s'en va jouer avec le grand club. Un défenseur régulier, Thomas Harley, 22 ans. Choix de première ronde, 18e au total en 2019. C'est pas Bobby Orr, là, mais il joue dans la ligue à un peu de l'âge de nos jeunes défenseurs. Puis, sans faire de comparaison entre chacun des joueurs, je regarde cette équipe-là, un autre défenseur, 28e au total en 2018, Nils Lundqvist. Et le mélange de ces bons jeunes joueurs-là avec les bons vétérans, les Pavelski à 39 ans, les Ben à 34, qui reste juste une année de contrat, donc pas un mauvais contrat. Celui qui pourrait devenir un mauvais contrat, c'est Séguin. Il reste 3 ans, 9.8, mais il est parmi les 8 marqueurs de 20 buts et plus. Fait que c'est pas un contrat lourd. Il joue ça à 3. La troisième ligne de Dallas, c'est Marchment, un gars qui ont mis sous contrat, agent libre. Duchesne, qui ont mis sous contrat également. Et Tyler Séguin, une transaction qui remonte à 2013. Ça, c'est leur troisième ligne. Le quatrième trio, c'est Dadonov. Oui, notre Dadonov. Stan Steele, un gars signé. Puis Craig Smith, un gars de 33 ans que pas grand monde connaît. Fait que, tu sais, puis ils sont sur le bord d'aller en finale de conférence pour une deuxième année de suite. C'est plus que de réciter des noms, là, bâtir un club gagnant. Mais, donc, souvent, quand on parle d'améliorer le Canadien, tout le monde, puis... Moi aussi, je suis peut-être embarqué un peu dans ce piège-là. C'est comme, on peut pas parler de personne qui approche de 30 ans. Mais je comprends pas pourquoi qu'on raisonne de même. Puis j'ai fini de raisonner de même, d'ailleurs. Et je m'ouvre totalement la possibilité que le Canadien mette sous contrat un gars de 30 ans et plus. Il s'agit de pas le payer, il s'agit de pas l'attirer ici avec un contrat trop long. Et c'est ça le piège. Qui j'espère que Kent Hughes sera évité si jamais il y a une vraie fenêtre d'opportunité avec Steven Stamkos ou encore avec un Marchessault. Et question de savoir comment vous percevez ces deux joueurs de hockey-là, moi je vous demande, à contrat égal, là, à rémunération égale, quel est le joueur de hockey que vous prendriez entre Steven Stamkos et Jonathan Marchessault? Et de façon plus générale, la question que je pose, je la pose si vous étiez DG de Seattle, puis vous voulez des buts. Deux marqueurs de 40 buts, deux gars dans la jeune trentaine, dans la première moitié de trentaine, des gars qui sont des compétiteurs, qui ont gagné la Coupe Stanley, lequel vous prendriez? C'est sûr que vu de Montréal, c'est intéressant parce qu'il y a l'élément francophone avec Jonathan, mais le joueur de hockey qui aurait le plus gros impact sur l'équipe que dirige Martin Saint-Louis. 514-790-9850 et à la messagerie texte 98985. Nicolas nous écrit, j'adore les Québécois, je souhaite plus, mais si tu me donnes le choix entre Marchessault, Stamkos et que Hughes a mentionné avec Gorton qu'il faut se grossir, je prends Stamkos avant Marchessault. Je suis tanné que le CH est le palais des nains de la LNH. Faut pas être désobligeant, mais je comprends donc beaucoup de petits joueurs. En plus, il y a déjà de la chimie avec Saint-Louis. Patrick de m'écrire, ben Crosby serait parfait à Montréal, mais Sidney est encore sous contrat pour la prochaine année. Oui, salutations des gens qui me signalent que les femmes montréalaises sont éliminées dans la LPHF, en effet. Et voilà, meilleur exemple de ce que vous parlez par rapport au gars qui agents libres souhaitent quitter là où ils sont, là où ils ont ramassé de bonnes statistiques qui leur permettent de négocier des gros contrats. Mathieu me mentionne Huberdeau, il marchait super bien avec Barkov, donne un gros contrat. Ben, c'est pas vrai qu'il a arrêté de marcher, là, je m'excuse. Il marchait avec Barkov. C'est juste que l'équipe avançait pas. Alors, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'eux autres ont décidé de faire un changement à ce moment-là. Et il y a une opportunité de transaction qui est arrivée. On s'en va au téléphone tout de suite. Comment c'est ça? Et le premier intervenant ce soir sera Vladimir. Bonsoir, Vladimir.
Bonsoir.
Bonsoir, Vladimir. Ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, ça va bien. Je t'écoute, mon cher.
Bon, moi, honnêtement, entre les deux, j'irais plus avec Stamkos.
OK. Et dis-moi pourquoi.
Je trouve qu'il est plus stable. Je trouve que... En plus, si on regarde son physique, c'est quand même un gros bonhomme là comparé à Marseille-Chaud.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a besoin à Montréal? On le dit souvent, c'est quelqu'un de qui, tu sais, offensivement, tu sais, qui est quand même assez puissant là.
Mm-hmm.
Puis, je pense aussi qu'au niveau marketing, même si Marseille-Chaud c'est un francophone, je pense que Stamkos, il risque de plus, comment dire, en guillemets, pogné là, à Montréal là, que Marseille-Chaud.
C'est une plus grosse vedette selon toi?
Vraiment, oui. Définitivement, si on parle de vedette là, pour moi, c'est Stamkos.
Et la production est semblable quand même, mais puis moi, je vais te dire une chose. C'est drôle parce que Stamkos, on dirait qu'il a su se réinventer. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il avait peut-être été ennuyé par des blessures, mais tu sais, je pensais qu'il était sur le déclin. Puis il est pas. Puis on a parlé à Julien Brisebois la semaine dernière, et j'ai pas abordé la question du déclin, mais tu sais, ils l'ont pas mis sous contrat en début d'année. Je sais pas. Jamais Julien dira ça publiquement, puis je prétends même pas qu'il a pensé ça. Mais peut-être qu'ils se sont dit, on va voir quel genre d'année. Il va connaître 40 buts, 41 passes. Il y a quand même eu une grosse année. 81 points encore à 34 ans. Il les a eu en février. Ça veut dire que l'an prochain, c'est son année de 35. Mettons, tu le signes pour 3-4 ans, là. Ben, tu le loges qu'à 38. Tu sais, je regarde un Pavelski. Si c'est un gars fier qui prend soin de lui, j'ai pas de trouble. L'idée, c'est de pas donner des 6 ans et plus, là. Tu sais, des 5 ans et plus.
Il y a aussi un autre aspect. Ahmed Marchesso, là, on le sait, quand un francophone vient à Montréal, la pression qu'il a, est-ce qu'il va être capable de performer à Montréal? Avec la pression qu'il va avoir, la pression médiatique, parce que c'est un francophone. Puis, tu sais, on sait que c'est, avec les francophones, ça a été très difficile à Montréal, là, si on l'a vu, là. Je sais pas si il fitterait avec le marché de Montréal, moi, honnêtement, là.
Ça dépend du tempérament. Je pense qu'il y a un tempérament qui ferait qu'il est quand même, comment dirais-je, la traduction de cocky, là, je cherche le mot, puis je dirais pas qu'il est arrogant.
Je sais que tu veux dire, ouais.
Mais tu sais, il est pas arrogant, mais tu sais, il est confiant. Il dégage beaucoup de confiance. C'est sûr que si ça fonctionnait moins bien, mais tu sais, c'est un gars fier. Fait que j'ai confiance qu'il serait bon. L'élément physique, c'est pas à négliger. Et l'élément qu'Antoine Roussel donnait tout à l'heure, que Stamkos joue au centre aussi. Fait que ça peut dépanner, ça.
Ça aide. Parce qu'on le sait, ça fait longtemps qu'à Montréal, on en parle. Ça prend des gros joueurs, des joueurs de centre. Là, en tout cas, on espère que ça va s'améliorer avec le temps, là. Mais moi, encore une fois, moi, si tu donnes le choix, je pense que je reste Stamkos. Moi, c'est.
Fait que t'es pas fermé à l'idée, à condition que ça soit pas un contrat, là, qu'on est à genoux, puis qu'on lui donne 3 ans de plus juste pour qu'il vienne, parce qu'il faut le supplier, parce qu'il veut pas venir. Tu sais, ça prend un gars qui veut venir, qui veut s'embarquer là-dedans, qui veut vivre.
C'est vrai, parce qu'on le sait. À Montréal, il y a aussi l'aspect financier. Des fois, ça rebute les gens à cause que, tu sais, apparemment, à Montréal, quand t'es au Québec, bon, tu payes plus d'impôts, apparemment, que quand t'es aux États-Unis. Je sais pas si c'est vrai, là, mais.
Oui, c'est vrai.
J'ai entendu dire que c'est l'aspect vrai. Salarial est important, là. C'est vrai que souvent, à Montréal, ils sont obligés de surpayer des joueurs. Rappelle-toi, à l'époque, là, avec Gomez, tout ça, c'est des salaires de fou, là, tu sais. Parce qu'ils étaient à Montréal, fait que.
Moi, je pense que Marchesso, son objectif premier, c'est de rester à Vegas. Mais je pense que s'il veut le plus gros contrat, parce que lui, il a signé un gros contrat à vie. Et donc, c'est une possibilité pour lui d'aller en chercher un autre. Dans le cas de Stamkos, lui, il a déjà accumulé 100 millions en revenus. Fait que, tu sais, je me dis, il peut vouloir le plus gros contrat possible, ou il peut juste aller jouer dans un marché qui le fait triper, ou rester direct là où il est, puis il est heureux, tu sais.
Puis, je sais pas si c'est qui est plus vieux entre les deux.
C'est une question de mois. Stevens, je te disais que c'est le février. Lui, il a eu 34 en février. Dans le cas de Jonathan, je vais te trouver ça.
Plus jeune, lui.
Il est pas bien bien plus jeune, mais oui, peut-être de quelques mois. Il a 33 ans en ce moment. Je regarde juste à quel mois il va avoir 34.
Mais ben, tu vois, les deux, là,
ils ont un an de différence. Ils ont un an de différence. Disons qu'on va donner 10 mois plus jeune pour Jonathan. Il est du mois de décembre, puis l'autre est du mois de février.